toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clémence Alezard, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Clément Daté. Troisième volet donc de notre série consacrée au musée, qu'on a intitulé « Musée par-delà le patrimoine ». Et aujourd'hui, du Bénin à la Chine, la restitution en question. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Depuis 2002, nous avons rapatrié plus de 5000 pièces du monde entier. Des États-Unis, d'Australie, du Japon, de partout. Leur patrie doit être l'Égypte, pas l'Allemagne, pas la France, pas l'Amérique, ni l'Italie.
Ces pays refusent toute attitude coloniale envers leur patrimoine culturel. Et ils commencent à réaliser que les pays occidentaux n'ont pas toujours été très honnêtes dans leur façon d'acquérir les collections.
On a besoin de connaître son histoire. Pour une raison simple, c'est que quand on veut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. La Fondation travaille là-dessus, la Fondation Zinsou travaille sur la question de rénovation du patrimoine, la question de la présentation des artistes et de la création contemporaine, donc tout ce qui touche à la création de tout temps.
On entendait dans l'ordre Zeyi Awas, ancien ministre des Antiquités égyptiennes, qui a mené de rudes campagnes pour que soient restitués des biens exposés dans des musées du monde entier, la pierre de Rosette, le buste de Nefertiti ou encore le zodiaque de Dendera. Marcus Gilgert également, directeur de la collection du Pergam Museum, mais aussi Marie-Cécile Zinsou, qu'on vient d'entendre en dernier, directrice de la Fondation Zinsou, créée en 2015 à Cotonou, au Bénin. Justement, le Bénin fait l'actualité puisque l'été dernier, il a officiellement demandé à la France la restitution de milliers d'œuvres d'art volées, dont des pièces maîtresse de la collection du musée du Quai Branly. Elles auraient été pillées par le général Dodds, alors à la tête des troupes qui ont conquis le pays en 1894. Parmi elles, des sceptres royaux, des trônes et des statues anthropomorphes, notamment celles des derniers rois d'Abomey, une dynastie régnant dans le sud-ouest du Bénin jusqu'à la fin du 19e siècle. La demande de l'ancienne colonie française a toutefois assez peu de chances d'aboutir. La plupart des musées occidentaux opposant un refus systématique, s'abritant derrière un droit international insuffisant et l'inaliénabilité de leur collection nationale. Depuis les années 70-80, les demandes de restitution auprès des grands musées parisiens, londoniens ou new-yorkais se sont multipliées. Beaucoup d'entre elles viennent du continent africain, soucieux de tenter de réparer ainsi, en quelque sorte, les dégâts causés par la colonisation. Quels sont les obstacles à ces restitutions? Que prévoit le droit international en la matière? Et quels sont les cas où des objets ont pu revenir sur leur terre d'origine? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons avec nous deux invités. D'abord, en duplex depuis Genève, Eric Wiscombe, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur en préhistoire et archéologie africaine à l'Université de Genève. Et puis également avec nous ici à Paris en studio, Emmanuel Pierrat, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes avocat au barreau de Paris, conservateur du musée du barreau de Paris, un petit musée, me disiez-vous, et grand collectionneur de livres anciens et d'art africain, et notamment l'auteur de ce livre « Faut-il rendre les œuvres d'art ?» paru aux éditions du CNRS il y a quelques années, en 2011 maintenant. C'est vrai que cette question, bien sûr, Emmanuel Pierrat, des restitutions, elle s'est accentuée, j'en parlais, à la faveur de la décolonisation. Avec les années 60, 70, on va commencer à avoir beaucoup, de plus en plus de demandes de restitution. Mais en réalité, cette question, elle préexistait. Par exemple, dès les campagnes napoléoniennes en Égypte ou en Italie, cette question de la restitution se pose. Elle est très ancienne, en réalité.
C'est une question qui est traitée par le droit et par les nations depuis extrêmement longtemps. Il a été traité originellement à côté du droit de la guerre. Donc le sort est destiné, le sort des pillages, du fruit des pillages, est une question qui préoccupe depuis toujours les États. Il y a de très très vieilles législations. En Russie, par exemple, il est possible depuis 1917 de conserver des œuvres qui ont été, comme on le sait, on va dire prises aux Russes blancs et aux exilés. Et puis depuis 1945, de conserver les œuvres qui ont été prises dans un cas de héroïsme de la lutte contre le nazisme. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très large qui va, les questions de restitution, de la spoliation des biens juifs, à la colonisation, en passant par les conflits les plus classiques, le pillage des sites archéologiques, des fouilles. C'est une question extrêmement vaste, mais qui devient aujourd'hui plus pertinente et importante pour le continent africain.
Et par ailleurs, c'est vrai qu'on sait que beaucoup des objets volés, pillés, pris, je ne sais pas quel qualificatif il faut utiliser, mais sont désormais dans les musées nationaux français, même si bien sûr, il faut quand même dire que toutes les œuvres de nos musées ne sont pas le résultat de pillages et de vols. Il ne faudrait pas caricaturer. La question du Bénin, Emmanuel Pierra, et puis ensuite on se tournera vers Genève pour retrouver Eric Wiscom. L'été dernier, le gouvernement du Bénin a formulé une demande formelle à la France concernant des pièces pillées pour le coup pendant la colonisation. On se souvient comment en décembre 2013, le CRAN, le Conseil National Représentatif des Associations Noires de France, était rendu au musée du Quai Branly pour montrer à la presse les pièces volées au Bénin par les armées coloniales. Mais là, la demande vient du gouvernement et c'est la première fois que cette ancienne colonie d'Afrique subsaharienne fait cette démarche. Comment le comprendre? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est le résultat d'une nouvelle politique qui aurait été mise en place par le nouveau président qui est arrivé au début de l'année, Patrice Talon? Comment comprendre? Pourquoi maintenant?
Pourquoi maintenant? D'abord à l'imitation d'un mouvement plus général qui s'est créé dans les anciennes colonies de ce qu'on appelle toujours un peu la France-Afrique malgré tout. Le Niger notamment a fait partie des premiers pays qui ont revendiqué auprès de la France, fait des procès à certains marchands, tenté d'attaquer, demandé des restitutions officielles qui sont terminées plus ou moins bien. C'est-à-dire que parfois la justice a stoppé et puis la diplomatie a pris le dessus et a réussi à rétrocéder avec des arrangements dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui sont en réalité un peu un marché de dupes parfois, qui consiste à ce que les œuvres reviennent officiellement au pays d'origine, mais qu'elles soient laissées en dépôt en France, dans nos musées. Alors le Bénin suit ce mouvement, et c'est légitime. Il l'accélère peut-être cette année, parce que les élections présidentielles ont donné un résultat, on va dire, un peu en opposition au grand musée français. Le principal opposant de l'actuel président Patrice Talon, c'est Lionel Zinzou, qui a monté une fondation formidable au Bénin, mais qui par ailleurs est président de la Société des Amis, la formidable Société des Amis du Quai Branly. Donc il faut peut-être y voir un petit clin d'œil politique. Mais au-delà de ça, c'est une revendication qui n'est pas totalement absurde et qui, aujourd'hui, s'est manifestée par une lettre dans l'ambassade qui est arrivée, qui n'est pas descendue dans tous les services et qui n'a pas été répercutée dans tous les musées, parce que ça va se régler, il faut bien le dire encore une fois, diplomatiquement, faute de pouvoir être réglée par le droit.
Une lettre à l'ambassade, à l'adresse de qui? Parce que ça pose la question de savoir finalement qui sont les autorités qui sont compétentes en la matière. Au musée, aux affaires étrangères, à qui?
Aux affaires étrangères, Stéphane Martin, le président du musée du Quai Branly, a déclaré en septembre à Parcours des Mondes, qui est la grande foire qui se tient à Saint-Germain-des-Prés, où sont réunis tous les marchands, où viennent tous les musées, où chacun fait ses emplettes, il y a des marchands de partout. Il en profitait parce qu'il récupérait une statue camerounaise qui a été volée dans les collections du musée de l'Homme. Il y a les musées des arts africains et océaniens et le musée de l'Homme ont fusionné en quelque sorte, en tout cas dans leurs collections les plus anciennes, pour donner la naissance au musée du Quai Branly. Et il y a eu des vols pendant de nombreuses années. Il y a eu des réseaux de résistance d'abord financés au musée de l'Homme, puis ensuite des pillages, des vols, des crapuleux. Et donc, à cette occasion, Stéphane Martin a annoncé que d'un seul coup, il récupérait d'un côté une statue volée, mais que par ailleurs, il n'avait toujours pas reçu pour sa part de transmission du Quai d'Orsay de la demande officielle du Bénin. Il faut bien comprendre que le droit ne permet pas au Bénin, à l'heure actuelle, en tout cas le droit français et le droit international ne permet pas au Bénin de faire autre chose qu'une simple demande. Voilà. Et que donc ensuite, c'est le bon vouloir des autorités françaises.
On va revenir.
Donc, essentiellement d'abord d'ambassade et de diplomatie.
On va revenir évidemment dans cette émission sur les textes existants qui permettent d'encadrer ces restitutions. On va voir que c'est très compliqué, bien sûr. Eric Wiscom, peut-être une réaction sur ce Bénin, parce que pendant longtemps, les autorités françaises ont fait savoir que de toute façon, il n'était pas question de retourner quoi que ce soit, puisque le gouvernement béninois ne faisait pas de demande officielle, justement. Voilà que c'est fait. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que des pièces soient restituées à Cotonou, Eric Wiscom, maintenant?
Je pense tout d'abord que pour ces objets qui sont détenus en Europe et qui sont issus justement de continents comme l'Afrique, il faut distinguer de nombreuses catégories, tant au niveau juridique qu'au niveau de l'approche qu'il faut pour une éventuelle restitution. On peut effectivement pas mettre dans le même panier la pièce qui a été offerte par un ancien colon, la famille de colon, qui a été échangée parfois pour une croûte de pain dans un village, la pièce qui a été volée à des villages. Alors, fouille sous un mais qui sont des recherches scientifiques, et puis des guerres où on sait très bien, on a des écrits, que par exemple le butin de guerre très important qui a été pris par l'Angleterre à Benin City au Nigeria a été véritablement pris pour être revendu en partie pour compenser les frais de guerre, et ça ce sont des opérations de représailles plus que discutables. Donc je pense qu'il y a, différents cas de figure. Le cas de figure d'Abomey rentre dans ces butins, pseudo-butins de guerre, qui en fait n'étaient pas des guerres, c'était juste des manœuvres militaires pour aller conquérir du terrain. Et ça, je pense que, bon, bien sûr, il n'y a pas de texte qui a, enfin, c'est mon collègue juriste contredira peut-être, mais il n'y a pas de texte qui permet aujourd'hui de formaliser un retour de ces pièces-là, mais elles devraient effectivement retourner sur place, c'est évident.
En tout cas, si on se réfère à ce qu'avait dit à l'époque Hélène Le Gall, qui était la conseillère Afrique de l'Élysée, qui avait accordé une audience, mais elle avait dit, elle avait expliqué qu'il n'y avait pas eu de pillage colonial justement au Bénin et que les objets concernés étaient des dons d'un monarque de l'époque aux armées françaises. Évidemment, on a un peu de mal à y croire. Emmanuel Pierrat, vous faites nom de la main. Les auditeurs n'ont pas l'image, mais non. Évidemment, Emmanuel Pierrat, on en sent bien. En tout cas, c'était le discours qui avait été porté par...
Éric Wiscom a raison de distinguer sur les 5000 objets, par exemple, demandés par le Bénin actuellement, depuis juillet dernier. Le Bénin lui-même dit qu'il y a 40 objets qui ont été arrachés de force. Ça veut dire qu'il y en a donc 4960 qui appartiennent à d'autres statuts, qui ont été négociés, qui ont été échangés, qui ont été achetés, en tout cas très à vil prix, il faut bien l'admettre. Il y a beaucoup, beaucoup de statuts différents. Et ce qui peut relever, on va dire, d'une restitution qui aurait lieu automatiquement parce qu'il existe des textes qui nous lient en matière de pillage, de guerre et de violence, effectivement, c'est peut-être 40 objets. Mais le reste, le vrai problème à régler, c'est pas ces 40 objets. Depuis toujours, on règle ces problèmes-là, le pillage très violent. Ce qu'on ne juge pas et ce qu'on ne permet pas en droit, c'est la restitution de ce que la colonisation, de l'emprise, on va dire, gouvernementale étrangère a permis de faire.
Oui, puis dans ce cas précis, s'agissant du Bénin, c'est très difficile d'avoir des preuves, savoir si c'est un don, savoir si c'est un vol, c'est un pillage, c'est très compliqué. En revanche, il y a un cas justement, Emmanuel Pierrat, parce qu'il y a d'autres, cas, Emmanuel Pierrat, où justement cette question est plus simple à régler. Je pense par exemple au Nigeria, qui a été aussi dans cette démarche de demande de restitution, notamment, il y a, je crois, des réclamations au British Museum, et il y a notamment un cas où on a des preuves qui montrent que ces pièces ont bien été volées. On a par exemple des soldats qui ont eu la très bonne idée de se faire prendre en photo à côté de leur butin. Dans ce cas précis, quand on a la preuve du vol, est-ce que le droit permet d'espérer une restitution ? Emmanuel Pierrat.
Le droit le permet. Ceci dit, alors il faut encore une fois faire des distinctions et des sous-catégories. Tout dépend du type d'œuvre d'abord. Le Nigeria, par exemple, comme la plupart des États de l'Afrique sahélienne, a pris des dispositions très vite et très tôt reconnues par la communauté internationale sur les pièces les plus anciennes. Les cultures Nok, Sokoto, c'est-à-dire des terres cuites qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, appartiennent à un statut très particulier. Donc il ne suffit pas de parler d'une œuvre du Nigeria pour... distinguer là-dedans ce qui relève de l'archéologie, au même titre, si je puis me permettre, que des antiquités grecques, romaines, on va dire, on va faire des rapprochements hasardeux, mais c'est un peu ça, et puis des œuvres plus récentes, du 19e, du 20e, du 18e siècle, sachant que c'est très difficile de conserver des œuvres en bois pendant très longtemps. On a donc de la terre cuite très ancienne et puis des œuvres en bois beaucoup plus récentes. Et il n'y a pas d'interdiction de sortie sur des œuvres en bois, mais il y a une interdiction absolue, quelles que soient les circonstances, pillage ou même commerce, des œuvres archéologiques les plus anciennes. Donc, à partir de là, le Nigeria a fait des demandes sur son patrimoine le plus identifiable, entre guillemets, comme absolument interdit de sortie, et continue à interdire légitimement et à raisonner les catalogues, les salles de vente partout dans le monde, et à demander au musée de restituer. Un exemple qui fait sourire aujourd'hui, c'est celui de Jacques Chirac qui avait brandi lors de son anniversaire, son 60e anniversaire à l'Élysée, dans Paris Match, les statues Nok qu'on venait de lui offrir, que ses conseillers lui avaient offert. Évidemment, là, le Nigeria n'a pas pu faire autrement devant la double page de Paris Match que demander immédiatement qu'on rende les objets. Ça faisait très mauvais effet. Là, c'est des objets sur lesquels il n'y a même pas à discuter de savoir s'ils ont été pillés, si on a une photo de soldat à côté.
Éric Wiscom, justement à propos du Nigeria, qui avait fait une demande, je crois, de restitution auprès du musée du Louvre et qui avait accepté, je crois, dans un premier temps, de les rendre. Il s'agissait là aussi de pièces volées. Et finalement, ces pièces, Éric Wiscom, sont restées dans la collection du Louvre.
Oui, alors je ne connais pas le fond de l'accord, mais effectivement, donc il y a eu une entrée en matière, mais les pièces sont actuellement déposées, donc sont mises en dépôt au Louvre, elles sont restées en mise au dépôt au Louvre, mais l'accord qui a été signé derrière ne m'est pas connu. Par contre, effectivement, je précise peut-être la pièce de Jacques Chirac, je rectifie
rectifier.
Malienne. Elle a causé beaucoup de soucis. Je crois que j'étais un des premiers à trouver le Paris Match sur mon bureau et à téléphoner à l'époque à Kalena Sonogo et à Samuel Sidibé pour leur dire, mais vous avez vu le Paris Match de cette semaine, ce qu'il y a dedans, et ça a lancé un peu l'affaire, qui prenait de Tial. On a eu beaucoup de mal à la récupérer. Et aujourd'hui, elle est effectivement, c'est une des très rares pièces qui a été restituée au Mali. Elle est pas restituée, elle est don du président de la République française. C'est un don, ce n'est pas une restitution. Elle est au Mali.
Ouais, vous parliez de Samuel Sidibé, justement, qui est directeur du Musée national du Mali. On l'aura tout à l'heure par téléphone. Emmanuel Pierrat, la question du droit. Novembre 70, l'UNESCO met en place une convention pour la protection des biens culturels. Il y a plus d'une centaine de pays qui le ratifient. Qu'est-ce qu'elle prévoit pour éviter justement l'érosion du patrimoine culturel africain? Et qu'est-ce qu'elle prévoit en particulier sur la question de la restitution?
On va la rendre plus simple et plus lisible parce que en droit elle est très technique et difficilement elle est assez amphigourique. De façon simple, elle prévoit l'avenir. Elle ne règle très peu le futur. C'est-à-dire qu'elle dit à partir de maintenant, les œuvres ne peuvent pas sortir sans, on va dire, un dispositif légal, sans des certificats, sans avoir été approuvées par les services d'archéologie. Donc c'est une convention, la convention donc de 1970 qui prévoit l'avenir. En précisant que déjà, elle posait des difficultés, c'est-à-dire au marché de l'art tel qu'il existait au moment de sa signature. Ce qui fait que la France, par exemple, a mis de nombreuses années avant de la mettre en œuvre, cette convention. Nous en sommes signataires dès le début et nous avons attendu de très, 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 très longtemps avant de la mettre en œuvre en droit concret, c'est-à-dire de la faire ratifier par l'Assemblée nationale et de la faire rentrer en vigueur ici. Et puis, c'est plus une déclaration de bonne intention. Il faut bien le comprendre comme ça. Il y a un autre instrument très important qui a été élaboré et dont la France est co-rédactrice, qui s'appelle la Convention Unidroit, et là, qui celle-ci permettrait, en pratique, de véritablement remonter en arrière.
Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit.
Convention internationale, donc signée sous les meilleurs auspices et par les plus grands États, dans laquelle, en gros, tous les objets doivent être restitués à partir du moment où ils sont sortis, on va dire, autrement que dans un commerce légal. Mmh. C'est-à-dire que les dons un peu forcés, les cadeaux un petit peu soumis à la pression militaire ou économique, tout ça reviendrait donc en arrière. La difficulté, c'est qu'il y a eu un lobbying très fort de la part du syndicat national des antiquaires, de la part de députés. Pierre Lellouche a fait des déclarations enflammées et que donc la France a choisi, dans un mouvement, on va dire, de résistance à ce qu'elle avait signé,
de ne pas ratifier.
Ouais. L'accord n'est jamais rentré en vigueur pour ce qui nous concerne. La plupart des grands États qui possèdent des collections venant de leur héritage colonial ont décidé de ne pas faire rentrer en vigueur cette convention Unidroit. Donc elle est parfaite sur le papier, elle est restée, on va dire, lettre morte et c'est la seule qui permettait de véritablement mettre en œuvre la convention précédente, celle donc que vous évoquiez de 1970.
Éric Huiscom, sur cette question du droit, sur cette question même de la faillite du droit, cette convention Unidroit qui finalement n'a pas d'effet, à tel point que de toute façon, comme la France ne l'a pas ratifiée en l'occurrence, elle ne peut pas la suivre. Cette faillite du droit, Éric Huiscom?
Je ratifie entièrement ce que dit mon collègue. C'est un magnifique texte qu'on a eu avec beaucoup d'enthousiasme, mais effectivement, comme il n'est pas ratifié, il est tout à fait inapplicable. Alors, il y a des pays qui ont mis des conventions en route d'une manière bilatérale, notamment la Suisse en est un, mais ce sont des textes souvent bilatéraux avec un pays précis. Et là, on peut intervenir. Notamment, il y a une convention entre la Suisse et l'Égypte, il y a une convention entre les États-Unis et le Mali. Ce sont des conventions vraiment spécifiques entre deux pays. Et là, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'archéologues, travaillons aussi accessoirement pour la police fédérale, etc. Comme experts, on peut faire jouer sur ces textes. Quand on a des pièces qui viennent d'un pays particulier, on peut jouer sur ces textes pour entraîner des restitutions. Mais ça touche essentiellement le patrimoine qui aujourd'hui arrive aux douanes. Il est certain que ce qui est enregistré dans les musées de longue date, surtout des musées prestigieux comme le British Museum, le Louvre, etc., on ne peut pas l'y arracher, c'est impossible.
Et ce qu'on remarque, c'est que puisque finalement le droit ne permet pas de régler cette question, les choses se passent en général de façon bilatérale et c'est finalement les voies de la restitution, c'est essentiellement le résultat de ces négociations, de ces discussions bilatérales. Et justement à ce propos, il y a eu en 1978, l'UNESCO a mis en place un comité, notamment sous l'impulsion d'Amadou Matarbo, qui a été chargé de rechercher, je cite, des voies et les moyens de faciliter les négociations bilatérales pour la restitution ou le retour de biens culturels au pays d'origine. Quel bilan est-ce qu'on peut dresser de l'action de ce comité de l'UNESCO?
Alors, ceci dépend exactement de la puissance financière et économique du pays concerné. Il est certain que quand la Chine a réclamé à l'Allemagne accords des pièces, elles ont été immédiatement restituées. Par contre, des pays qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de moyens économiques, qui n'ont pas de moyens de pression aucun, ils n'ont aucune voix. Donc c'est très difficile. Alors c'est un que ce comité a agi encore, mais concrètement, je n'ai des pays pauvres qui n'ont pas la mainmise sur leurs ressources primaires, je n'ai vu aucune récession venir.
On va peut-être essayer d'arranger peut-être la liaison avec Genève, parce qu'on a des petites coupures, donc que les auditeurs ne s'inquiètent pas, leur radio fonctionne très bien, c'est nous qui avons un petit problème technique, on va essayer de régler ça. Emmanuel Pierrat, sur le fait qu'effectivement, puisque le droit, visiblement, ne fonctionne pas, ce qui prime dans cette question de la restitution, c'est les accords bilatéraux, en réalité. C'est comme ça que se rendent ou pas les pièces.
Oui,
et donc c'est un rapport de force.
C'est un rapport de force, sauf quelques cas de figure exceptionnels. Si on prend l'histoire des grands accords internationaux, sur 30 ans, on trouve une dizaine de conventions internationales, de traités, et qui, encore une fois, sont avec des états variables, c'est-à-dire entrées en vigueur ou non, et plus ou moins coercitifs. Mais à l'intérieur de ça, il y a par exemple une résolution en 2003 prise sur l'Irak, où alors là, tout le monde s'est entendu sur le fait qu'a priori, ce pays ravagé et pillé devait faire l'objet, en quelque sorte, d'une protection particulière. Mais là, c'est une question de... On se donne bonne conscience très facilement en ignorant à côté les demandes légitimes et formulées depuis longtemps par l'Égypte, on l'a entendu tout à l'heure en début d'émission, par la Grèce pour les frises du Parthénon, par la Turquie pour un nombre d'œuvres absolument phénoménales, notamment aujourd'hui à Berlin, et par... L'Iran aussi fait partie des gens qui, des États qui, république islamique ou pas, réclament son patrimoine pré-islamique de façon systématique par les voies diplomatiques et par les voies judiciaires et qui parfois obtient raison. Donc voilà. Ensuite, il y a tous les petits arrangements qui permettent concrètement de faire avancer les choses. Je ne suis pas sûr qu'il faille céder uniquement aux petits arrangements et qu'il ne faille pas faire avancer le droit ou rendre le droit applicable et qu'il faille totalement désespérer.
Non, par ailleurs, vous parlez de petits arrangements. Parfois, il y a des petits arrangements, comme vous dites, qui sont relativement satisfaisants. Je pense à une affaire qui remonte à quasiment 40 ans maintenant, le Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tervuren, en Belgique, qui avait rendu des œuvres à Kinshasa en 1976. On a un accord entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais et on a 114 objets ethnographiques qui vont partir au musée de Kinshasa. C'est probablement l'une l'un des rares exemples quand même de restitution, en tout cas de cette ampleur-là.
C'est le mauvais exemple.
Pourquoi ? C'est le mauvais exemple.
En raison de ce qui lui est arrivé après.
Ah ouais, absolument.
Voilà, parce que il faut bien le dire, c'est un formidable mouvement, il faut le saluer. Et ensuite, il y a eu un vol et un sac du musée de Kinshasa où tous les objets rendus par Tervuren ont disparu. Donc ça donne des arguments et des armes à ceux qui veulent considérer que les musées africains ne sont pas aptes à gérer les œuvres.
Et qui
se trompent, parce que au musée d'art moderne de la ville de Paris, on a réussi à se faire voler 5 œuvres par une bande de voyous serbes il y a quelques années, il y en avait pour 100 millions d'euros, c'était il y a à peine 5-6 ans, donc on n'a pas de leçon à donner. Mais c'est vrai que cet exemple sert en permanence d'argument pour s'opposer en disant c'est très bien de rendre aux Africains, ils ne seront pas capables de gérer. Et c'est un argument qui est inopposable, inacceptable moralement, intellectuellement et d'ailleurs historiquement.
Et oui, parce que ces œuvres, effectivement, elles ont ensuite été dérobées lors du départ du président Mobutu au milieu des années 80 et se retrouvaient ensuite sur le marché européen, on y reviendra. Sur cet exemple, Eric Wiscombe, d'accord entre la Belgique et le Congo qui avait permis de rendre une centaine donc d'objets ethnographiques qui malheureusement effectivement ont été ensuite dérobés et se retrouver sur le marché européen. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Pierrat qui dit c'est pas parce que cet exemple-là montre que les pièces n'ont pas eu le destin qu'on l'espérait qu'il ne faut pas réitérer ce genre d'accord. Vous êtes d'accord avec ce principe-là, Eric Wiscombe ?
Mais c'est bien évident. Il est certain que les gens qui défendent les objets qui doivent rester en Europe vont toujours chercher l'exemple qui a failli. Mais à côté de ça, il y a quand même des dizaines de musées africains qui sont tout à fait sécurisés. Il y a actuellement à Dakar le musée des civilisations noires qui va être inauguré à la fin de l'année, qui est un magnifique musée avec des systèmes de sécurité excellents. Et il n'y a pas de raison de ne pas restituer parce qu'il y a eu un ou deux problèmes qui s'est passé avec certains États.
On parle cette semaine des musées par-delà le patrimoine du Bénin à la Chine, dont on parlera tout à l'heure. Cette restitution en question, on est avec Emmanuel Pierrat et Eric Wiscombe.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va poursuivre nos discussions. Et justement, c'est cette question de savoir si finalement les musées africains sont prêts à recevoir des œuvres et des collections de l'étranger pour les présenter à leur public. Et pour répondre à cette question, on va retrouver celui qui est à la tête du Musée national du Mali depuis 1987, qui est devenu un homme incontournable dans la sauvegarde du patrimoine culturel malien. Vous en parliez tout à l'heure, c'est Samuel Sidibé, qui était d'ailleurs chargé de la question de la restitution à l'UNESCO jusqu'à octobre dernier. Il s'insurge, lui, contre la notion de musée universel théorisée par les directeurs des grands musées occidentaux. Il demande à ce que soit relancé le débat sur la restitution et le droit des civilisations de jouir de leur création. Est-ce que justement les musées africains sont prêts à recevoir ces œuvres qui seraient restituées par les musées occidentaux? C'est la question à laquelle il répond. Il est au micro de Tiffaine de Rocchini.
Si on veut être honnête, donc les musées africains ont un chemin à parcourir sur ce plan-là. Nous devons améliorer les conditions de conservation, nous devons améliorer les conditions de présentation des œuvres pour que donc ces œuvres soient présentées en Afrique de façon sécurisée. Il reste que si on ne veut pas échapper au débat, il faut peut-être le poser aussi en termes de comment faire aujourd'hui que les musées occidentaux, les grands musées occidentaux, puissent aussi aider les musées africains à être en mesure donc de recevoir ces collections-là. Je pense que le problème pour moi, c'est aussi une question de droit humain. Parce que je répète que beaucoup de musées africains aujourd'hui ont perdu l'essentiel de leurs collections. Les cultures africaines ont perdu l'essentiel de leurs collections. Les collections sont en Europe. Donc on ne peut plus continuer effectivement à dire que bon, ces objets restent en Europe. Il faut veiller à ce qu'effectivement cela puisse certains objets puissent revenir en Afrique. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon donc de travailler sur le plan technique sur des questions de dépôt à long terme, d'échange de collections, mais dans tous les cas, il faudrait effectivement que les musées européens acceptent donc la question du partage de ces collections-là, peut-être sous la forme de restitution définitive quand c'est possible, mais en tout cas sous la forme de circulation des œuvres d'art qui permettront au public africain de regarder effectivement les œuvres de leur culture.
Vous avez dit dans une interview en juin dernier regretter de ne pas avoir réussi à attirer plus de personnes dans votre musée. Comment est-ce que vous expliquez ce relatif désintérêt? Est-ce que c'est justement lié à l'absence de certaines pièces maîtresses du patrimoine malien dans le musée national du Mali?
Il y a évidemment plusieurs raisons à cela. Je pense que nous ne sommes pas arrivés à faire en sorte que les musées soient des espaces ouverts au public africain. Je pense que nous n'avons pas su changer l'image du musée colonial. Le musée tel qu'il est aujourd'hui en Afrique est quand même largement héritier du musée colonial et nous ne sommes pas arrivés véritablement à changer cette image. Et nous avons beaucoup travaillé encore sur ça, en ouvrant le musée aux cultures vivantes, en ouvrant le musée aux cultures contemporaines pour que les jeunes se sentent concernés par ce musée. Si les musées restent complètement collés au passé du continent, en plus avec cette perception des cultures africaines héritées de l'époque coloniale, évidemment, on a peu de chances d'attirer les jeunes. Donc, il y a vraiment un effort de repenser le musée. Je pense qu'il faudra peut-être aussi voir comment on peut faire en sorte que le musée soit une espèce ouverte à l'expression des cultures des communautés. Des choses qui permettraient effectivement de faire en sorte que le musée, que les populations se réapproprient.
Voilà, repenser le musée, en faire un espace ouvert, nous dit Samuel Sidibé, qui était avec nous depuis Bamako, le directeur du Musée national du Mali, et je le redis, chargé de cette question de la restitution à l'UNESCO jusqu'à octobre dernier. Réaction peut-être d'abord avec vous, Emmanuel Pierra, ici en plateau, et puis ensuite j'irai du côté d'Éric Wiscombe à Genève. Emmanuel Pierra.
Non, il a raison, son discours est parfaitement approprié. Il dirige en plus un très beau musée qui a été entièrement refait.
Alors vous avez vu l'année dernière.
Que j'ai vu plusieurs fois, mais la dernière fois avec une panne d'électricité qui était liée au quartier et non pas au musée. Donc c'était un peu particulier de redécouvrir les œuvres dans le noir à la lumière d'un téléphone portable. Mais la collection est magnifique, elle est mise en valeur avec beaucoup beaucoup d'intelligence. Elle a été faite alors en partie à l'occasion d'une coopération sur une exposition avec le Quai Branly sur les cimiers Siwara, qui sont donc des objets Bambara du Mali, des objets de fertilité. Voilà, c'est un vrai bon exemple. Comme il y a le musée de Dakar, l'ancien IFAN, qui était l'Institut français d'Afrique noire, qui a été transformé, repris par Senghor, et qui aujourd'hui porte le nom de Théodore Monod, qui en était le directeur pendant la guerre.
On a eu hier son directeur, figurez-vous.
Ah non, voilà, parfait.
Il suffit de réécouter l'émission et vous pourrez l'entendre.
Je suis plus à jour.
Éric Wiscom, vous êtes en ce moment à Genève. Le musée Barbier-Muller de Genève avait rendu des pièces au musée de Bamako, non ?
Non, c'est-à-dire que c'est-à-dire que le musée Barbier-Muller a organisé il y a quelques années une très vaste exposition de terre cuite africaine dont 40% étaient en fait étaient concernés par les listes rouges de l'ICOM, l'Institut international, la Commission internationale des musées. Donc effectivement, beaucoup de pays avaient réagi en réclamant ce patrimoine exposé chez Barbier-Muller, au musée Barbier-Muller. Et il y a eu une négociation qui a été entreprise entre notamment le Musée national du Mali et le Musée Barbier-Muller, mais les pièces qui étaient proposées à la restitution étaient concernées plutôt une pièce dont l'authenticité est plus que douteuse. Et je crois que tout le monde était conscient du caractère douteux de l'authenticité de cette pièce. Donc il n'y a rien qui a été retourné de Barbier-Muller à Genève.
C'est une
Par contre, je voulais soutenir que Samuel a évidemment tout à fait raison, comme l'a dit mon collègue, mais il est très modeste parce que je ne connais pas un lycéen dans tout Bamako était au musée national. Mais il est clair que le peuple malien, jusqu'au fin fond de la brousse, comme le peuple sénégalais ou le peuple ivoirien, actuellement, quand on va dans les petits villages de brousse, les gens sont très attachés à la culture. Ils sont très attachés à ce qu'ils savent, ce qui est en train d'être perdu. Et le musée doit se retourner vers une image plus large de la culture, qui est non seulement l'objet, mais qui est aussi la tradition orale, qui est le costume, qui est le vêtement. Et là, je pense que les gens, on pourrait augmenter la fréquence du musée. Le musée des civilisations noires qui va s'ouvrir prochainement à Dakar vise à la fois aussi bien la musique que les pièces d'art, que la pièce.
Et c'est le patrimoine matériel et immatériel. Éric Wiscom, encore un mot parce que, évidemment, pour éviter que des œuvres d'art africaines partent du côté des États-Unis ou encore de l'Europe, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, des initiatives globales, internationales, on va peut-être y revenir, mais aussi des choses plus locales. Et on peut penser notamment à ce qu'on appelle les banques culturelles. Je crois que vous avez participé au lancement d'un projet un peu de cette nature. Vous nous expliquez de quoi il s'agit ?
Absolument. Alors le principe est extrêmement simple. Plutôt que la population ou la famille qui possède par exemple une pièce en bois, un fétiche entre guillemets, et qui désire, plutôt que d'aller le vendre à un antiquaire, peut le déposer dans un musée banque culturelle, c'est-à-dire la pièce sera déposée, elle continue à appartenir à la famille, elle reçoit en contrepartie un microcrédit qui est remboursable, et quand elle rembourse, donc la pièce entre deux pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, est allée exposer publiquement dans ce petit musée de province, et puis quand la personne a remboursé la somme, elle récupère sa pièce, donc elle n'est pas vendue, elle n'est pas expatriée, elle récupère sa pièce et elle peut la remettre éventuellement en jeu pour un deuxième prêt. Ça permet de garder le patrimoine culturel sur place, dans les familles, et en même temps, les gens peuvent en bénéficier et avoir des microcrédits qui leur permettent d'avancer dans leur vie quotidienne.
C'est une bonne initiative, ça, Emmanuel Pirin. Vous voyez abonder. Hein.
Elle me semble effectivement très pertinente et intelligente. On est face à quand même des difficultés immenses. Hein. Il ne faut pas oublier que les marchands occidentaux continuaient jusqu'à très peu de temps d'arpenter l'Afrique en cherchant des objets. Qu'il existe encore aujourd'hui, je le connais, des récolteurs, entre guillemets, qui font le tour du Mali en proposant à ceux qui sont pour le candidat au départ, c'est-à-dire à l'exil, à l'émigration, d'apporter les objets et donc de les ramener à la capitale et de les vendre ensuite ou de les apporter à Paris ou dans les grandes capitales européennes de façon à trouver de l'argent. Donc c'est-à-dire que des gens voyagent avec des petits objets qu'ils ont gardés avec eux. Donc il faut lutter contre cette dispersion ou cette dissémination extrêmement, extrêmement importante quand même. Plus qui va de pair par ailleurs avec un changement d'habitude, avec l'arrivée du plastique, avec 100 000 autres choses qui facilitent quand même en quelque sorte l'abandon ou la vente de ces objets traditionnels.
On va voir justement comment est-ce qu'on peut lutter contre ces marchés.
Si je peux intervenir.
Allez-y.
Je voulais renforcer ce que dit le collègue. Cela me fait vraiment rire toujours le discours des antiquaires qui disent il n'y a plus rien en Afrique. Sur le terrain, il n'y a plus rien. C'est totalement faux. Il y a encore énormément de pièces sur le terrain qui sont récoltées par des professionnels qui vont jusqu'au fin fond de la brousse chercher la dernière statue du dernier village existant. Et ça, on peut encore faire quelque chose en place sur le terrain. Et je le vois avec ce projet de banque culturelle. Ce musée, il est plein. Le musée de Dimbal, il est plein. plein, il y a des pièces extraordinaires, elles sont là. Donc c'est faux de dire qu'il n'y a plus rien en Beauce. Au contraire, il y a encore une action à mener localement sur place.
Alors justement, on va poursuivre sur cette idée pour voir comment est-ce qu'on peut mieux contrôler ces marchés. Mais juste peut-être d'abord, parce qu'il faut aussi entendre de belles histoires, et j'en ai une à vous proposer, la Vénus de Morgantine, une statue de marbre plus de 2 mètres du 5e siècle avant Jésus-Christ qui se trouvait au musée américain Paul Getty avant d'être rendue en 2011 à l'Italie où elle a retrouvé sa Sicile natale.
Sì, sicuramente, guardi questo museo.
C'était déjà un beau musée en soi, mais il faut dire la vérité, c'est désormais un musée magnifique. Avec l'ajout de ces nouvelles pièces archéologiques et surtout de notre déesse de Morgantina, ce musée est devenu un lieu de connaissance absolue. C'est un endroit que l'on ne peut éviter si l'on veut bien connaître l'archéologie et l'histoire sicilienne.
Ouais, c'était Enrico Caruso, directeur du musée d'archéologie de Haydon, où maintenant est exposée cette Vénus. La Sicile est très heureuse de retrouver sa Vénus. C'est ce qui a permis son retour. Pour le coup, c'est justement une procédure judiciaire. On disait que ça ne fonctionnait jamais. En l'occurrence, en 2001, le tribunal d'Enna condamne un homme à 2 ans de réclusion pour recel de cette fameuse Vénus, cette déesse de Morgantina. Il l'avait vendue via une société londonienne au musée Getty de Los Angeles en 1986. Et donc cette affaire, elle prouve que parfois quand même, les procédures judiciaires permettent en tout cas dans certains cas d'obtenir gain de cause. Mais elle pose aussi la question sur laquelle on était déjà, Pierre-Emmanuel Pierrat, c'est celle du contrôle, peut-être insuffisant, des marchés qui parfois vont laisser passer des pièces sans s'assurer de leur provenance. Alors comment est-ce qu'on fait pour mieux contrôler les marchés, pour éviter que les œuvres circulent aussi facilement et ne fassent l'objet ensuite d'une demande de restitution, parce que c'est ça qui se passe.
Oui, c'est ça qui se passe. Alors, l'exemple, pardon, du Getty me muse, hein, il me fait sourire, il est très beau. C'est un peu angélique de le considérer comme ça, comme un mouvement spontané. Hein. La directrice des antiquités du Getty a été condamnée pour avoir acheté ces 15 dernières années, jusqu'il y a à peine 3-4 ans, des œuvres pillées systématiquement dans des fouilles archéologiques, dans la Méditerranée. Voilà. Donc on est face.
On fait bien
à...
de le rappeler.
Oui, on fait bien de le rappeler. Quand même. Le Getty est quand même le grand musée assis aujourd'hui sur une collection d'antiquités constituée essentiellement par des œuvres volées ces dernières années. Donc, il me semblait à peu près de bonne guerre qu'il soit condamné et puis qu'il restitue quelques objets. Ça, c'est une chose. La vraie difficulté, effectivement, que vous soulevez, c'est d'arriver à tracer et de rendre les acteurs du marché de l'art vigilants sur la nécessité de connaître exactement la provenance des objets. Aujourd'hui, que doit faire un marchand en théorie ? Il doit juste avoir un livre. Donc dans laquelle il inscrit les entrées et les sorties, c'est tout. On lui demande absolument pas de remonter et de vérifier surtout l'authenticité du parcours qu'a suivi une œuvre. Ce qui fait que c'est la porte ouverte à peu près, il y a tout et n'importe quoi. On évoquait tout à l'heure, c'est vrai, les œuvres qui étaient au Louvre, au pavillon des sessions, quand on l'a inauguré, et les œuvres NOC qui avaient été exposées, avaient été achetées sur le marché belge volontairement en disant qu'elles circulaient illégalement sur le marché belge et que c'était le devoir de la France de les acheter pour les mettre à l'abri au Louvre, avant qu'on ait une demande de restitution du Nigeria et qu'on décide, et c'est ça le dessous de l'accord que vous n'aviez pas, cher ami, tout à l'heure, je parle de notre ami de Genève, l'accord a été que le Nigeria a accepté de nous laisser exposer ces 3 œuvres au pavillon des sessions où elles sont toujours. Mais l'origine de ces œuvres, ce sont des œuvres volées, ce sont des œuvres qui circulaient en Belgique de façon légale en Belgique, mais illégales si elles avaient franchi la frontière, et nous les avons achetées. Voilà. Donc nous ne devrions pas cautionner et acheter, et nous devrions systématiquement demander à vérifier. Nous sommes capables de le faire aujourd'hui sur l'ivoire, au motif qu'il faut protéger les éléphants. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas considérer que les hommes sont au moins aussi importants, oui. Je serais beaucoup en le disant, que les défenses d'éléphants.
Pas toujours avec les résultats espérés, on a déjà parlé ici un certain nombre de fois, l'ivoire évidemment, qui pose problème. Et des.
Mais on n'en a même pas au degré, on ne considère même pas les êtres humains et l'art des êtres humains aujourd'hui comme l'ivoire des éléphants, et on vient en fin de condamner un premier pillard des mausolées Tombouctou à la Cour pénale internationale, mais c'est un cas très isolé par rapport à ce qu'on fait sur d'autres trafics.
Éric Wiscombe, je voudrais qu'on revienne sur cette question de la restitution et du marché, parce qu'en réalité, bien sûr, les deux sont liés. Et je voudrais raconter peut-être une autre chose et parler de cet homme, Sindika Dokolo, qui est un homme d'affaires congolais, qui est parti à la poursuite, disons, d'œuvres d'art volées, pillées. Je précise que c'est le gendre du président de l'Angola, José Eduardo dos Santos. Il s'est marié avec sa fille Isabelle Isabel dos Santos, qui est par ailleurs une des femmes les plus riches du continent. Ça, c'est dit. Il détient l'une des plus grandes collections d'art africain. Il tient notamment de son père, mais pas seulement. Son but affiché, c'est de rapatrier les œuvres éparpillées aux quatre coins du monde. Il y a récemment une affaire dans laquelle il est parvenu à faire plier un galeriste parisien qui a restitué à l'Angola une statue volée du musée de Dundo pendant la guerre civile angolaise. Le galeriste en question demandait initialement à Monsieur Dokolo une compensation, je mets des guillemets, pour ce retour au musée de 1 million de dollars. Et puis finalement, il a revu ses ambitions à la baisse, 600 000 euros, avant de les rendre pour 80 000 euros. Mais ce qu'on voit ici, c'est que cette restitution, elle n'est pas le résultat, bien sûr, d'une démarche judiciaire. Elle est finalement le résultat on a monnayé finalement ce retour. Et donc, on a introduit une valeur marchande à cette pièce, en l'occurrence. Est-ce que ça, c'est pas un obstacle à la restitution? Plus on a de pièces qui ont de la valeur et des valeurs plus en plus importantes, et on voit, ce marché est en train d'exploser, plus ces œuvres sont susceptibles d'être volées, Eric Wiscombe.
Oui et non, c'est-à-dire que je pense que le réenrichissement des collections africaines passe par plusieurs voies. Il y a les voies des restitutions légales, mais je pense, et j'ai beaucoup d'estime, j'ai plusieurs de mes amis d'ailleurs sénégalais ou ivoiriens fortunés qui investissent dans l'art pour faire revenir d'Europe des pièces d'art, je pense que c'est tout à fait légitime de leur part, on espère bien sûr en tant que travaillant ou collaborateur de musées locaux, que effectivement, à leur décès, ils lègueront ces pièces sur place, parce que ce sont des collections, des fois, qui sont vraiment conséquentes. Donc je pense que les deux sont parallèles. Hein. Pour répondre à votre question, les deux sont parallèles. La valeur marchande, elle est déjà là. C'est pas parce que des collectionneurs africains ou chinois écument le marché et mettent leur argent, je préfère qu'ils mettent l'argent là-dedans que dans des villas du 16e arrondissement. Je veux dire, c'est bien, c'est louable. Et je pense que ça, de toute façon, le marché, il est là.
Oui, sauf que plus ces œuvres sont chères et plus elles sont exposées. Elles sont exposées, pardon, une vilaine liaison qui est passée.
Mais ça,
Eric Wiscombe,
vous aurez très dit casser le marché. La seule façon de casser il y a deux façons de casser le marché, c'est introduire des faux d'extrêmement bonne qualité, où on déstabilise le marché, on déstabilise la confiance que les collectionneurs qui en fait achètent aussi par placement d'argent mettent dans cet art. Et la manière de casser le marché, c'est de faire ce que les États-Unis ont fait, par exemple avec la République du Mali, c'est des interdictions complètes, où on va rechercher même dans les vitrines des antiquaires et des collectionneurs toute pièce issue du Mali, à tel point que les gens ne veulent plus y toucher, et la valeur du coup chute, la valeur a vraiment chuté.
Emmanuel Pierrat, encore peut-être sur cette question du contrôle du marché, de la valeur marchande de ces pièces également. Et puis ensuite, on ira retrouver Bernard Briset pour parler de la Chine. Emmanuel Pierrat.
Moi, je pense qu'il faut que les œuvres aient une valeur. Il le faut parce que c'est la seule façon de leur donner une valeur symbolique.
Alors comment on peut leur donner de la valeur et en même temps contrôler mieux le marché?
Et je ne pense pas d'ailleurs qu'il faille rajouter des faux. Il y a déjà 80% de faux dans le marché de l'art africain tel qu'il est colporté dans les rues de Paris ou d'autres capitales. Je pense que ça, c'est suffisant comme ça. Il y a suffisamment de dégâts comme ça. Et ça n'est pas rendre service aux cultures africaines que de continuer à multiplier des faux. Comment contrôler? Obliger les marchands réellement à tracer. Vous avez des ventes aux enchères qui auront lieu dans quelques jours à Paris. Les grandes ventes aux enchères d'art tribal qui ont lieu au mois de décembre. Regardez les fiches. À part le pédigré, c'est-à-dire l'appartenance à un grand collectionneur, Paul Guillaume, des grands noms du début du XXe siècle, Charles Raton, etc. Ce sont les seules indications de référence. Le fait que l'œuvre ait été achetée légalement, qu'elle ait été pillée ou pas, est indifférent à ces catalogues. Donc il faut commencer par faire le ménage, devant nos portes. C'est assez simple quand même de pouvoir prendre au moins une disposition qui obligerait, ne serait-ce que les antiquaires et la place de Paris, à indiquer proprement d'où viennent véritablement les objets qui sont achetés et à les considérer comme, à ne prendre que des objets qui ont un parcours légal.
On quitte l'Afrique, direction la Chine.
大家好，我是成龙。我记得在2000年的时候，国际上有一家拍卖行第一次拍卖。
Bonjour à tous, c'est Jackie Chan. En 2000, des têtes d'animaux du zodiaque du Vieux Palais ont été mises en vente aux enchères internationales. Et c'est à ce moment-là, pour ma part, que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ces têtes. Dans la même année, la tête de tigre a été mise en vente pour plus de 1,2 million d'euros, plus du double de l'estimation. J'ai donc eu l'idée de produire un film sur ces têtes et j'ai cherché des gens qui comprenaient leur histoire pour écrire ce script.
U-M-B-A-G-Scumbag. I can kick your ass without leaving this couch.
Oui, Jackie Chan, vedette chinoise du cinéma international, véritable ambassadeur de son pays, appelant à la restitution des têtes de Zodiac provenant du palais d'été de l'empereur à Pékin. D'ailleurs, dans un film, il le dit, sorti en 2012, CZ12 pour Chinese Zodiac, il interprétait un aventurier parti à la recherche de statues du Zodiac dérobées par les troupes britanniques et françaises lors du sac du palais d'été en 1860, parce qu'en effet, en 1860, lors de la seconde guerre de l'opium, qui opposait la Chine à la France et le Royaume-Uni, soutenu d'ailleurs par les États-Unis et la Russie à l'époque, le site a été pillé, saccagé, incendié par les troupes franco-britanniques pendant deux longues journées. Bonjour Bernard Brizet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de la Chine, ancien grand reporter au Figaro et puis auteur de ce livre, Sac du Palais d'été, Seconde Guerre de l'Opium, et paru aux éditions du Rocher. Il y a des millions d'objets qui ont été volés lors de ce saccage. Il y a des bijoux, de jade, de porcelaine, des calligraphies, des peintures, des statues. Et les Chinois veulent les récupérer. D'ailleurs, lors des commémorations des 150 ans du saccage, auquel d'ailleurs vous étiez, le porte-parole du Palais d'été avait dit que c'était un très long processus qui ne faisait que commencer. Donc on voit bien que Pékin est très déterminé à faire tout ce qu'il peut pour faire revenir ces objets, même si dans les faits, on va voir que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'obstacles légaux, mais aussi diplomatiques, Bernard Brizet.
Certes, les Chinois rêvent, ça fait partie de la propagande, donc de rapatrier en Chine donc tout ce qui a été volé par les Français et les Anglais, je dirais. Les Anglais surtout parce que c'est surtout eux qui ont pillé. Bien. Tout ce qui a été pillé en 1860 au Yuanmingyuan. Mais comme vous l'avez dit, il y a un problème considérable en France, c'est que tout ce qui est dans les musées est inaliénable. C'était vrai également pour la Bibliothèque nationale. Il n'y a inaliénable, c'est-à-dire que un musée ne peut pas se séparer d'une pièce, d'une œuvre d'art qui fait partie de ses collections. Donc que faire ? La question est posée et elle est sans solution.
Et elle est sans solution. On a un début de solution si on se penche sur cette affaire. Ce fameux exemple des deux têtes de bronze, de rat et de lapin en l'occurrence, qui provenaient de la fontaine donc du palais et qui en 2009 s'était retrouvé dans une vente chez Christie's.
La vente de Pierre Berger.
Absolument, la vente de Pierre Berger. Finalement, la vente a été annulée et ces pièces ont été rendues à la Chine. Je crois même que c'est le fils de François Pinault qui les a achetées, qui les a ensuite offertes à la Chine. Ce qui, je crois d'ailleurs, a rendu son installation du côté de Shanghai un peu plus facile, non ?
C'est-à-dire que...
Bernard Brizet ?
Oui, c'est-à-dire que les Pinault sont propriétaires de Christie's. Ils avaient des difficultés pour implanter Christie's. La maison de vente aux enchères à Shanghai, et ça s'est résolu tout facilement à partir du moment où les deux têtes ont été restituées à la Chine.
Voilà, preuve que la diplomatie joue toujours. Il y a une question que je me pose. Est-ce que ce fameux collectionneur chinois avait été mandaté par Pékin pour acheter ces têtes-là? Et si la réponse est affirmative, mais vous allez me le dire, Bernard Brizet, est-ce que ça veut dire que de la part de Pékin, on a bien sûr le désir de récupérer ces pièces, mais aussi peut-être d'instrumentaliser, d'une certaine manière, cette question des restitutions?
Tout à fait. Moi, je pense qu'en Chine, vous savez, tout remonte au sommet et tout est organisé. Et je ne crois pas que l'acheteur fictif, si vous voulez, qui a acheté ses œuvres, ait été mu par un subi désir. En fait, il était mandaté, ça me paraît évident. Au lieu.
Oui, d'accord. Donc, mandaté par les autorités de Pékin, très clairement.
Voilà.
Donc ça veut dire que c'est évidemment un sujet pour les autorités de Pékin. Est-ce que c'est un sujet aussi pour l'opinion ? Est-ce que c'est un souvenir qui reste vif, dans la mémoire collective ?
Absolument, parce que ça fait partie de la propagande. J'ai eu une traductrice un jour qui m'a dit qu'elle avait appris l'histoire du palais d'été, donc le pillage, alors qu'elle était à l'école primaire. Donc dès l'école primaire, si vous voulez, les Chinois sont formatés, connaissent cette histoire.
Oui, et puis peut-être une autre preuve, c'est que votre livre à vous, il a été traduit en chinois et il s'est vendu, et très bien vendu, je crois, 300 000 exemplaires, preuve s'il en fallait, que c'est un sujet qui intéresse, qui préoccupe les Chinois. Il y a un objet, je crois, qui se trouvait initialement au Palais d'été, que les autorités de Pékin voudraient bien récupérer. C'est un album de peinture représentant le palais qui se trouve à la Bibliothèque nationale. Pékin le réclame depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet album et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit restitué ?
Je vois que vous êtes très au courant. Non, cet album, ça s'appelle Les 40 vues du Yuanmingyuan. Le Yuanmingyuan, c'est l'ancien palais d'été, qui était à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Pékin, qui donc a été pillé par les Anglais et les Français en 1860. Et il y a un colonel français qui s'appelle le colonel Dupin, qui l'a volé, quoi, disons-le carrément. Et il l'a revendu chez Drouot en février 1861, et ça a été ensuite préempté par la Bibliothèque nationale. Bon, ces 40 vues de Yuan Yuan, c'est un superbe album. Donc, est un des joyaux du département des estampes de la Bibliothèque nationale. Et bien entendu, les Chinois aimeraient qu'on le restitue, qu'on le leur rende. Cela dit, ça paraît impossible. Mais alors là, je voudrais vous parler des archives coréennes.
Ah ben, je savais que vous alliez me parler de ça, parce que impossible n'est pas français et n'est pas coréen, voilà. Puisqu'effectivement, effectivement, il y a cette question, les collections nationales sont inaliénables. Mais souvenons-nous de ce deal entre l'État français et l'État sud-coréen, quand en 2010, oui. Nicolas Sarkozy avait prêté ces fameux manuscrits lors du G20, qui se déroulait en l'occurrence en Corée du Sud. Il savait bien qu'en les prêtant, ces manuscrits, ils ne seraient jamais rendus, et d'une certaine manière, c'était une façon de rendre ces objets à la Corée du Sud qui les réclamaient.
Manuscrits qui viennent de la Bibliothèque nationale également.
Absolument.
Absolument.
Bernard Brizet.
Oui, alors, Jack Lang, dont vous avez parlé, a été mandaté donc pour régler cette affaire. Parce que dans les années 1980, alors que M. François Mitterrand était président de la République, la Corée a signé un accord pour acheter des TGV. Et les Coréens ont dit « D'accord, mais vous nous rendez les archives royales qui ont été dérobées en 1866 par un amiral français, l'amiral Rose ». Et ça a duré, parce qu'il y a eu une pétition incroyable à la Bibliothèque nationale. Il y a eu 180 signataires pour s'opposer donc à la restitution à la Corée de ces archives royales. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on en a à faire, hein, de ces archives royales coréennes à la Bibliothèque nationale? Elles sont beaucoup mieux à Séoul, vous en conviendrez. Oui.
Allez, toute dernière question, Bernard Brizet, peut-être une dernière question sous forme de provocation. J'espère que Victor Hugo, qui s'était élevé contre ce pillage du Palais d'été, ne va pas se retourner dans sa tombe, mais je vais me faire l'avocat des armées françaises et britanniques. Mais après tout, ce pillage a peut-être permis à ces objets d'échapper à un autre saccage, celui qui s'est déroulé devant la Révolution culturelle.
Tout à fait, vous avez mille fois raison. Mais cela dit, c'est une question de principe, une question d'honneur que les Chinois mettent en avant ce problème de restitution. Mais je voudrais ajouter que pour les archives coréennes, que Jack Lang a trouvé une solution. C'est-à-dire que les archives coréennes royales coréennes ont été rendues à la Corée pour 5 ans, renouvelables, c'est-à-dire qu'elles resteront toujours en Corée. Moi, je soutiens, j'espère qu'un jour, ces 40 vues du Yuan Yuan seront prêtées, entre guillemets, à la Chine pour 5 ans renouvelables.
Merci beaucoup, en tout cas, Bernard Brizet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage « Sac du Palais d'été, Seconde guerre de l'opium » paru aux éditions du Rocher. Ça ne se négocie pas, et donc cette restitution, c'est un principe indépassable. Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel Pirat, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, « Faut-il rendre les œuvres d'art ?» pour approfondir cette question qui était parue aux éditions du CNRS en 2011. Je remercie également Eric Wiscom, qui était avec nous en duplex depuis Genève. Je remercie aussi les techniciens qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. On va tourner cette page sur les musées pour ouvrir un autre moment, le moment du tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Brice qui a repris du poil de la bête, il n'était pas là hier, il était malade. Nous le revoilà, ce Brice Couturier. Vous parlez depuis lundi de l'Allemagne. Est-ce que Angela Merkel, qui était la chancelière fédérale d'Allemagne depuis 11 ans maintenant, est-ce qu'elle a effectué 3 mandats, on le sait, elle s'est présente là pour un 4e. Pourquoi est-ce qu'elle se représente, comme elle l'a annoncé maintenant une dizaine de jours, Brice?
Sur le site Berlin Policy Journal, le correspondant de l'Irish Times en Allemagne, Derek Scali, écrivait peu avant cette annonce. Angela Merkel se représentera pour une raison simple, elle n'a pas le choix. La chancelière sollicitera en effet un 4e mandat parce qu'elle n'est pas remplaçable, c'est juste la meilleure et d'ailleurs, il n'y a personne d'autre. Primo, elle a accompli un sans-faute durant toute sa carrière politique. La gamine, comme l'appelait son mentor Helmut Kohl, a gravi tous les obstacles au sein d'une CDU qui n'imaginait pas être dirigée un jour par une aussi, mais elle a su quitter l'orbite du géant lorsque celui-ci s'est trouvé compromis dans un scandale financier. Ensuite, elle a éliminé méthodiquement, mais discrètement, tous ses rivaux au poste de présidente de la CDU en prenant soin de ne jamais humilier personne. En 2000, elle devenait le seul maître à bord, et en 2005, elle était chancelière en effet. Enfin, elle dissimule derrière son apparence insignifiante des qualités politiques exceptionnelles. Elle est même, selon Derek Scali, toujours lui, je le cite, « l'acteur politique le plus habile et le plus efficace d'Europe ». Vladimir Poutine, qui se prend lui-même, comme on sait, pour un super-héros, aurait confié qu'à ses yeux, Merkel est le seul joueur à son niveau en Europe. À Bruxelles, elle est désormais le seul dirigeant européen à avoir survécu à la crise de 2008 et même à celle des migrants, qu'elle a pourtant en partie provoquée en prétendant accueillir tout le monde. Mais rien n'est joué. Il est très dangereux de se présenter comme incontournable et irremplaçable sans alternative. Margaret Thatcher l'a appris à ses dépens en 2000. Elle qui avait gagné 3 élections, qu'est-ce que je dis en 2000 c'était pas en 2000, en 89. Elle qui avait gagné 3 élections générales consécutives en 79, 82 et 87, c'était en 90. Elle qui pouvait se vanter d'avoir redressé l'économie britannique a pourtant été renversée par ses propres amis conservateurs, ce qui leur a permis de garder le pouvoir pendant 7 années supplémentaires. C'est que la dame de fer avait coutume de réfuter toutes les critiques qu'on lui opposait d'un slogan sans appel, vous vous souvenez, Tina, pour « There is no alternative ». Merkel aussi, après 11 années de pouvoir, apparaît désormais un peu trop souvent comme, on dit en allemand, « alternative los ». Or, pour de nombreux analystes, cette manière de présenter les choix politiques comme inéluctables est l'une des causes principales de la montée du populisme.
D'autant plus, on peut le penser, lorsque de telles propositions politiques sont faites dans le cadre de gouvernements de coalition droite-gauche.
Exactement, Florian. C'est l'idée que défend la politologue allemande Ulrike Gero, directrice du European Democracy Lab. Cette européenne convaincue vient de mettre en ligne sur le site Eurozine une étude intitulée « L'échec de la politique de convergence au centre ». Article passionnant parce qu'en s'attaquant à la manière dont est géré le Parlement européen, sur le modèle allemand d'une étroite alliance entre centre-droit, Parti populaire européen, et centre-gauche, socialistes et démocrates, Gero en vient tout naturellement à critiquer la manière dont l'Allemagne elle-même est gouvernée par la grosse coalition CDU-SPD. En réalité, écrit-elle, un sentiment de dépossession des droits civiques est perceptible dans la plupart des pays européens. Il se conjugue avec un profond malaise social, particulièrement sensible dans les régions d'Europe qui ont fait les frais du grand marché commun. Les citoyens de l'Europe post-démocratique, comme elle écrit, voient dans leurs États privés progressivement de tous les moyens habituels de la régulation, après la monnaie, les budgets publics. À cette frustration, les élites gouvernantes répondent par des discours moralisateurs et culpabilisateurs. Elles se servent de l'accusation de populisme afin de faire taire toutes les critiques, même les plus justifiées. Or, en évacuant toute contradiction et en valorisant le consensus à tout prix, eh bien, elles font le jeu des extrêmes. Car écrit la politologue allemande, nous avons atteint en Europe un stade pré-révolutionnaire sans même nous en rendre compte. Et elle lance cet avertissement. Lorsqu'un système pourri s'effondre, cela peut aller très vite et prendre tout le monde par surprise. Si l'Union européenne devait éclater, on ne verrait pas grand monde verser des larmes. Face à cette montée des populismes, qu'elle estime avoir récemment atteint le seuil des 30% pour l'ensemble de l'Europe, les partis du centre, ceux de gouvernement, vont avoir de plus en plus fréquemment recours aux grandes coalitions afin de tenter de sauver les meubles. Le calcul des dirigeants politiques classiques en Europe est simple, faire le gros dos en attendant que la croissance revienne. Pourtant, même si l'Europe, à la suite des États-Unis, renouait avec la croissance, la menace populiste ne se volatiliserait pas miraculeusement. Le problème, c'est l'exaspération qui s'est emparée des opinions publiques depuis que les grandes décisions sont prises hors de leur contrôle, par consensus, entre les élites, et qu'en outre, ces décisions leur sont présentées comme irréversibles.
Merci beaucoup Brice Couturier. Effectivement, c'était pas 2000, c'était 1990.
Merci beaucoup.
La chute de Margaret Thatcher. Il y avait évidemment une forte impopularité du côté de la Dame de Fer, mais elle était aussi remise en cause dans son propre camp.
C'est
finalement ce qui l'a fait perdre. On voit que vous êtes encore un tout petit peu fiévreux, mais ça va revenir. Merci beaucoup Brice Couturier. À demain. Dans un instant sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.